La chambre du sommeil à Stepney. Une pièce spacieuse et obscure, à l'étage supérieur d'une vieille maison donnant sur un des quais les plus lointains de la Tamise. Les murs s'effritent, par plaques, des caisses de tout genre et de toutes dimensions, des tonneaux. Les poutres massives qui soutiennent le plafond s'élèvent çà et là sur la Seine. L'aspect du grenier d'un entrepôt quelconque. Au fond, une large porte de chêne très solide, garnie de verrous et de barres de fer. À droite, porte d'une armoire creusée dans le mur. À gauche, fenêtre dont les vitres sales et pleines de toiles d'araignées empêchent de voir au travers. Derrière cette fenêtre, des barreaux solides. Contre le mur de gauche, une vieille table salie et noirâtre. Une ou deux chaises de paille. La seule lumière qui éclaire la pièce est celle d'une lanterne sourde portée par Fletcher. Scène 1. Phyton, Jarvis, puis Fletcher. Jarvis est assis sur une vieille caisse, à gauche, sans bouger, comme quelqu'un qui attend. Phyton est assis sur la table. La porte du fond s'ouvre, livrant passage à Fletcher, qui porte une lampe de sûreté. Il s'arrête un moment et regarde autour de lui, dans la demi-obscurité qui l'entoure.
« C'est vous, Fletcher? Qu'est-ce que vous venez faire ici ?»«
Je suis envoyé par le patron. Nous avons à travailler ce soir. » »«
Oui, j'ai reçu une dépêche de Bassie qui me prévient. » »«
La dernière fois que la chambre du sommeil a servi, pour qui était-ce ?»«
Je ne sais pas le nom. » C'est un homme qui est venu un soir avec Bassic, un négociant étranger avec lequel il avait voyagé en chemin de fer.
Et aujourd'hui, pour qui opérons-nous ?
Bassic ne me l'a pas dit.
Quand le client sera là, nous le verrons bien.
Scène 2. Les mêmes, Bribe, puis Bassic. Bribe entre doucement, examinant les êtres avec inquiétude. Au bruit, Fletcher lève sa lanterne pour voir qui entre.
« Bonsoir, messieurs. Quelqu'un de vous peut-il me dire si c'est bien ici que je rencontrerai Alfred Bassic, avec qui j'ai rendez-vous ?»« Je vous demande pardon. Peut-être n'avez-vous pas entendu ma question ?»«
Nous n'en savons pas si long, mon garçon. »«
La personne que vous cherchez est peut-être ici. »«
Et peut-être n'y est-elle pas. » »«
Me voilà fixé. Je vous remercie. Drôle de maison. » On ne peut pas dire que son aspect soit précisément gai. Mais enfin, elle a son caractère.
Il tire une cigarette de son étui, la met dans sa bouche et prend une boîte d'allumettes sur laquelle il se prépare à en frotter une.
Pas d'allumettes.
Hein ?
Il y a du danger.
Bribe s'arrête instantanément et tourne la tête autour de lui, avec précaution, comme s'il s'attendait à trouver à ses côtés des barils de nitroglycérine.
Du danger ? Je ne vois pas où.
Si vous allumiez, vous le verriez.
La porte s'ouvre, livrant passage à Bassic.
Ah, Bribe, vous êtes là. Je vous attendais sur le quai.
Vous m'aviez donné rendez-vous dans la maison. Alors je suis entré. Si j'en juge par la réponse de ces messieurs, vous n'avez pas l'air d'y être très connu.
Ces messieurs sont discrets, c'est leur consigne. Vous vous êtes procuré la corde dont je vous ai parlé, Jarvis ?
Jarvis, montrant un rouleau de corde sur le plancher derrière lui.
« Voilà. »«
C'est vous qui êtes dans ce coin, Phyton ?»«
Oui, monsieur. »«
Et Fletcher ?»«
Présent. »
Ils parlent chacun d'un côté de la pièce, et Bribe se retourne vers eux au fur et à mesure qu'il entend les voix.
« Il va falloir jouer serré ce soir, mes enfants. Nous avons affaire à un rude gaillard. »«
Vous n'avez pas dit à qui ?»
« Ah, Sherlock Holmes !»«
Vrai ! Eh bien, monsieur Bassic, vous pouvez compter qu'on se donnera du coton pour être à la hauteur. »«
Il ne sortira pas d'ici. »«
Ça vaudra mieux, car s'il en sortait, il pourrait nous en cuire à tous. »«
Je n'aurais jamais eu tant de plaisir que ce soir à tourner mes robinets. »
Ayez soin que tout soit en ordre. Le professeur va venir inspecter le champ de bataille. »
Pas possible, le patron se dérange.
Oui, il veut voir par lui-même si la souricière est bien tendue. Tenez, je l'entends qui monte, le voici.
Scène 3. Les mêmes, Moriarty, hors le bar. Moriarty entrant.
Ah, vous voilà, Basic.
Oui, monsieur, j'étais venu tout examiner, selon vos ordres.
Fletcher est là aussi?
De ce côté, monsieur.
Vous avez vos hommes?
Tous au complet et bien stylés.
Avez-vous pensé à faire une provision de gaz, si par accident la ville arrêtait la distribution?
Le réservoir est plein, monsieur.
Moriarty montrant la porte de droite.
Qu'est-ce que cette porte, Basic?
C'est une armoire où nous serrons quelquefois nos outils.
Il ouvre la porte du placard que Fletcher éclaire avec sa lanterne.
Elle n'a aucune issue?
Aucune, c'est un placard dans le mur.
Il referme la porte.
Cette fenêtre?
Condamné depuis longtemps.
On peut casser les vitres.
Celui qui s'en aviserait se trouverait en face d'une demi-douzaine de barreaux qu'il aurait du mal à briser.
L'homme sera ligoté avant qu'il ait le temps de faire du dégât.
Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de fente, pas d'interstice par où l'air puisse passer?
Pas un trou d'aiguille, monsieur. La moindre crevasse est bouchée hermétiquement.
Et cette porte?
C'est du cœur de chêne et double en épaisseur.
C'est par là que sortent les hommes pour aller ouvrir le gaz?
Oui, monsieur.
Et il est impossible qu'on puisse les suivre?
Impossible. Vous avez vu les verrous au dehors et les deux barres transversales pour plus de sûreté.
Fit-on, montrant une des énormes poutres verticales qui s'élèvent au milieu du théâtre et supportent le plafond.
Nous attachons d'abord l'homme à cette poutre.
Fletcher, faites devant moi la manœuvre des verrous.
Fletcher se levant.
Voilà, monsieur.
Il sort par la porte du fond.
C'est à peu près le même système que dans votre cabinet de travail, mais renforcé.
Oui, il me semble que tout cela manœuvre comme il convient.
Fletcher rentre.
Fletcher, vous vous retirerez dans le corridor avec vos hommes et vous attendrez que Monsieur Orlebar...
Il le désigne.
Et eu avec la personne qui va venir un entretien dans lequel il doit régler une affaire personnelle. Que ces messieurs se tiennent cachés et assez loin pour que Sherlock Holmes ne puisse soupçonner leur présence.
À Basic.
Qui conduit la voiture ce soir?
Pas des plumes, monsieur. Je lui ai donné l'ordre de faire un tour d'environ une heure pour que son voyageur ne se doute ni de la direction dans laquelle on le conduit, ni de la distance qu'il parcourt. La voiture s'arrêtera à la petite porte de l'allée et Plum montrera le chemin à notre homme jusqu'ici.
Les volets de bois du fiacre sont solides?
Et fermés à clé.
Moriarty, regardant la lampe.
Qu'est-ce que c'est que cela? Une lampe de sûreté?
C'est à cause des émanations de gaz qui pourraient rester dans la pièce.
Je n'en veux à aucun prix. Si Sherlock Holmes la voit, il se doutera de quelque chose.
Reniflant.
Je ne sens d'ailleurs aucune odeur, et vos robinets sont bien fermés. Dites à Séraphin de se procurer une lampe ordinaire.
Basic sort, regardant autour de lui.
Apportez cette table-là au milieu.
Fletcher et Jarvis apportent la table au milieu du théâtre.
Maintenant, Fletcher et vous autres...
Les hommes se rapprochent.
Rappelez-vous une chose. Tout coup de feu est interdit ce soir. Ne brûlez pas une capsule. On pourrait entendre le bruit en bas, dans l'allée. Faites en sorte de vous emparer du revolver que notre adversaire porte toujours sur lui avant qu'il ait l'idée de s'en servir. Deux d'entre vous attireront son attention sous quelque prétexte. L'autre se glissera par derrière et subtilisera l'arme dans sa poche. Tout le reste, alors, deviendra facile. Vous êtes adroit, Fletcher. Chargez-vous de cette délicate opération.
Entendu, monsieur.
Rentre Basic avec une lampe à huile, une de ces lampes bon marché, cristal opale, abat-jour semblable. Moriarty à Basic.
À la bonne heure. Maintenant, vous pouvez éteindre votre lampe.
Nous en aurons besoin tout à l'heure quand nous aurons soufflé l'autre.
Mais il ne faut pas qu'on la voie.
Alors ne l'éteignez pas, couvrez-la seulement avec quelque chose.
Fit-on à Fletcher.
Tiens.
Il prend la lampe et la met dans une grande caisse dont il applique l'ouverture contre le mur de façon à cacher toute lumière.
Appuyez la caisse au mur pour qu'on ne voit pas la lumière.
Monsieur, il serait imprudent de rester ici davantage. La voiture peut être en avance.
Monsieur Orlebar.
Or le bar qui est dans le fond, avec bribes, descend.
Vous avez entendu ma recommandation à ces messieurs. Ils attendront pour agir que vous ayez terminé.
J'ai compris.
C'est pour vous donner le moyen d'obtenir la somme dont nous avons parlé. Mais tout ce qu'on trouvera sur le cadavre sera partagé selon nos règles ordinaires.
Je m'arrangerai pour sauvegarder mes intérêts auparavant.
Quand vous aurez empoché votre argent, vous n'aurez qu'à donner deux coups du petit sifflet qui pend à votre chaîne. Mes hommes comprendront que c'est leur tour d'entrer en scène.
Faisant quelques pas vers la porte.
Et maintenant, je vous souhaite bonne chance à tous. À propos, Fletcher, avant de quitter M. Sherlock Holmes, ayez soin de lui présenter mes compliments et mes meilleurs vœux pour le petit voyage qu'il va faire.
Il sort avec Bassick. Scène 4. Les mêmes, moins Moriarty.
Il vaudrait mieux cacher cette corde.
Jarvis ramasse la corde qui est par terre et la cache dans un tonneau. Fiton, il examine la fenêtre, regarde la fermeture et fait signe à Fletcher que tout est en sûreté de ce côté. Or le bar considère, près de la lampe, le faux paquet de lettres qu'il a tiré de sa poche, s'approchant de lui.
Vous avez saisi. Nous sommes dans le corridor, juste après le tournant, pour qu'on ne puisse pas nous voir en venant ici.
Et vous arrivez sur mon coup de sifflet.
Soyez tranquille, nous ne perdrons pas de temps.
Sortent Fletcher, Fiton et Jarvis. Bribe, qui a montré quelques signes d'impatience pendant la scène et tordu nerveusement sa moustache, regarde sa montre.
Diable, 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 diable. Voilà encore que ça prend une tournure qui ne me va pas.
Qu'est-ce que tu as à te trémousser ?
Bribe se grattant la tête.
S'il faut te parler franchement, Jim, ce qui se mijote ici n'est pas de ma partie. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis un garçon paisible, estimé dans son quartier.
Et payant régulièrement son terme, je connais la chanson.
Mon vieux, ouvrir la panse d'un coffre-fort ou percer le plafond d'une maison de banque, à la bonne heure, voilà qui rentre dans mes goûts. Mais s'attaquer à un homme, cela amène toujours certaines complications, et j'ai horreur des complications.
Écoute, tout ce que je te demande, c'est de descendre dans la ruelle et de me prévenir dès l'arrivée de la voiture.
Il faudra que je remonte alors.
Inutile, tu as ton sifflet de cab sur toi ?
Toujours.
Eh bien, quand tu verras de loin Paddy Plum sur son siège, tourner le coin de la rue, siffle deux fois dans ton instrument.
Compris. Mais en m'entendant siffler, s'il allait venir un cab ?
Eh bien, tu le prendras pour rentrer.
C'est juste. Alors, tu n'auras plus besoin de moi.
Non.
Ce que je vais me trotter. Et tu sais, mon vieux, bonne chance.
Il serre la main d'Orlebar et sort rapidement. Scène 5. Orlebar, puis Alice. Orlebar va à la table et arrange la mèche de la lampe. Il prend deux chaises et les place de chaque côté de la table. En faisant ce dernier mouvement, il s'arrête, comme s'il avait entendu un bruit au dehors. Mais il semble se rassurer et continue sa besogne. Il s'assoit sur une des chaises en réfléchissant, tire de sa poche un cigare et, en continuant à méditer, le tient un moment à la main sans l'allumer. Puis il va frotter une allumette sur sa boîte, mais se ravise. À ce moment, la porte s'ouvre. Or le bar se lève et reste stupéfait en voyant rentrer Alice Brunt.
Vous ? Qu'est-ce que vous venez faire ici ?
Alice, sans répondre à la question.
C'est donc vrai ?
Comment avez-vous trouvé le chemin de cette maison ?
Je vous ai suivi dans un cab.
Et vous avez averti la police, peut-être ?
Non, j'avais peur de voir arriver celui que vous attendez. Je le guettais.
Pour le prévenir ?
Pour le prévenir ? Oui.
Alors vous avez bien fait de monter.
Je suis montée pour avoir la certitude de...
De quoi ?
Qu'il ne va pas se passer autre chose que ce que je sais.
Vous savez donc qu'il va se passer quelque chose ? Ainsi nous continuons à avoir des espions dans la maison.
Je sais que votre projet est de duper, de voler l'homme qui va venir.
S'avançant vers lui.
Mais je demande maintenant si vous ne méditez pas autre chose.
Et que pourriez-vous faire si c'était vrai, ma belle ?
Vous acheter. Des hommes comme vous sont toujours à vendre.
Ça dépend du prix. Quel est le vôtre ?
Le paquet de lettres que vous convoitez, le vrai. Toutes les preuves, tous les documents que vous avez voulu m'arracher, je vous les donne.
Vous les avez sur vous ?
Non, mais en quelques minutes, je peux me les procurer.
Ah.
Il va à la table.
Et c'est pour M. Sherlock Holmes que vous consentez un tel sacrifice. Vous le croyez donc votre ami ?
Je n'ai pas pensé à cela. Je ne pense qu'à le sauver, car je devine que vous avez un autre projet.
Un autre projet ? Lequel ? Vous voyez bien que je suis seul ici. M. Sherlock Holmes et moi, nous allons tranquillement causer affaire. Quel mauvais dessein aurais-je contre lui ?
Où sont allés les hommes qui étaient avec vous tout à l'heure ?
Quels hommes ?
Trois individus de mauvaise mine que j'ai vus entrer par la porte de la rue.
Oh, je sais de qui vous parlez. Ils sont montés par un autre escalier. Ce sont des locataires qui allaient dans le bâtiment du fond de la cour. Tenez, vous pouvez les voir là par cette fenêtre.
Elle se dirige rapidement vers la fenêtre. Elle a un mouvement d'hésitation en voyant Orlebar marcher de son côté. Mais elle le surmonte vite et jette un regard par la croisée. La saleté des carreaux l'empêche de voir au dehors. Alice se retournant et montrant la porte.
Je voudrais jeter un coup d'œil dans ce corridor, si vous le permettez.
Ah, voilà. C'est que, justement, je ne le permets pas.
Vous ne comptez pas me garder ici malgré moi ?
Non, non, soyez tranquille, je ne vous garderai pas ici.
Où sont ces hommes ? Car je ne crois pas à votre explication.
Puisque vous tenez à les voir, on va vous faire ce plaisir-là.
Il va à la porte et siffle doucement. Scène 6. Les mêmes, Fiton, Fletcher, Jarvis. Ils apparaissent vivement et sans bruit par la porte et examinent Alice avec surprise.
Je savais qu'ils étaient cachés. Et je vois clairement votre plan. C'est à lui que vous en voulez tous.
Elle se dirige rapidement vers la fenêtre pour essayer de l'ouvrir. Mais, n'y parvenant pas, elle va vers la porte du placard. Orlebar l'arrête au passage.
Ne vous alarmez pas, il ne s'agit que d'une plaisanterie sans conséquence.
Écoutez. Vous désirez ardemment ces lettres que je possède. Laissez-moi m'en aller, et je vous les rapporte ici, ou à tout autre endroit que vous m'indiquerez.
Vous n'avez pas besoin de vous déranger. Dites-moi seulement où elles se trouvent.
Je vous le dirai si vous me promettez de renoncer à tout mauvais dessein contre celui que vous attendez.
C'est entendu. Maintenant, dites où est le paquet.
Attaché au store gauche de la fenêtre de ma chambre. Vous le trouverez facilement.
Fiez-vous à moi.
Remontant vers ses acolytes et leur parlant à mi-voix.
Emparez-vous de mademoiselle et emmenez-la d'ici jusqu'à ce que Sherlock Holmes se soit arrivé. Quand il aura franchi cette porte, dites à Paddy Plum de garder cette jeune personne enfermée dans sa voiture. Il ne faut pas qu'elle rentre à la maison avant que j'y sois allé moi-même mettre la main sur le poteau rose.
La corde, Jarvis !
Je suis désolé, mais nous allons être forcés de vous mettre en cage.
Vous m'avez promis, si je vous révélais mon secret !
De ne faire aucun mal à Sherlock Holmes ? Eh bien, il n'a pas encore à se plaindre de nous.
Alors renvoyez ces hommes.
Comment donc ?
Se tournant vers les autres.
Allez-vous-en, mes enfants, je n'ai plus besoin de vous.
Ils ne bougent pas. Alice les regardant terrifiée.
Ils ne vous obéissent pas, ils sont...
Jarvis la saisit. Elle veut résister, mais Fiton et Fletcher viennent à la rescousse et la ligotent rapidement. Fletcher tire de sa poche un foulard avec lequel il se prépare à la bâillonner. Le mouvement de la lutte a amené Alice et ses assaillants du côté du placard de droite. Au moment où on finit de lui attacher les mains, un sifflement aigu résonne comme s'il venait de la rue. La lutte s'arrête.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est lui, c'est Sherlock Holmes.
Comment le savez-vous ?
Ce coup de sifflet vient de Bribe. Je l'ai mise aux aguets.
Alors, nous n'avons pas le temps de faire disparaître cette femme.
Tenez, enfermez-la ici.
Il montre le placard.
Bonne idée.
Dépêchons !
Affitons.
Ouvre la porte, toi. Vite donc !
Fiton va au placard qui l'ouvre. À ce moment, Alice, en se défendant, échappe à ceux qui la tenaient. Mais Fiton remet brutalement la main sur elle. La terreur qu'elle éprouve, le bâillon qui la serre, provoque chez elle une faiblesse. Les deux hommes en profitent pour la transporter dans le placard, dont Jarvis repousse la porte sur elle.
Il n'y a pas de serrure à cette sacrée porte.
Comment faire ? La demoiselle a beau être évanouie, elle se ranimera.
Barricadez la porte !
Non. Ton couteau, Jarvis.
Jarvis lui tend un long couteau qu'il ouvre.
Un couteau ne remplace pas une serrure.
Si, quelquefois.
Enfonce-le à fond.
Jarvis enfonce violemment son couteau dans la porte, de façon à ce qu'il la traverse en se fixant dans le chambranle.
Et si nous tardons, Holmes va nous trouver ici.
Eh bien, tant mieux, nous lui sauterons sur le dos tout de suite.
Non pas, il est convenu que je dois le voir d'abord.
Oui, ce sont les ordres du patron. Nous avons peut-être le temps de gagner l'allée.
Alors, dépêchons.
Ils disparaissent tous les trois par la porte qui reste ouverte. Or le bar descend jusqu'à la porte du placard et, en y mettant toute sa force, enfonce encore plus avant le couteau dans les deux planches où il est cloué. Puis il revient à la table, ôte rapidement son chapeau et son paletot qu'il jette sur un tonneau vide, et s'assoit d'un air tranquille en mâchonnant le bout de son cigare. Scène 7. Orlebar, Sherlock Holmes. Holmes. Il entre de son pas ordinaire, comme s'il se trouvait dans l'endroit le plus paisible du monde. Il regarde autour de lui, et avec le petit rire sec qui lui est coutumier,
« C'est étrange que tous les bandits choisissent le même endroit pour s'y livrer leurs petites opérations. J'espérais pourtant, après cette longue promenade en voiture, que vous alliez me faire voir quelque chose de nouveau. »
« Vous êtes déjà venu ici, monsieur Holmes ?»«
Plusieurs fois. Tenez, à la place où vous êtes, j'ai poignardé un de vos confrères au moment où il essayait de s'évader par cette fenêtre. Corbett, le faussaire. »
« Corbett ? Connais pas.
Oh, »« Tant pis, car il est trop tard pour faire sa connaissance. »«
Ce que vous me racontez est tout à fait intéressant, mais les temps ont changé depuis lors. »«
Devez-vous à moi, monsieur Hollebar. » Il ne coupe pas des bruits bien rassurants sur cette demeure. On dit qu'il s'y fait parfois une vilaine besogne. À ma connaissance, plusieurs meurtres d'un caractère assez étrange y auraient été commis. Et j'ai toujours le soupçon.
Il s'arrête et renifle doucement.
Parfaitement. Ça sent les gaz.
Il va à la fenêtre et passe la main le long des rainures.
« Allô, mon flair, ne me trompez pas. C'est bien ce que je pensais. »«
Quoi donc ?»«
Ben, on a peur des courants d'air, ici. »«
Qu'est-ce que vous voulez dire ?»«
Oh, rien qui puisse vous intéresser, vous et moi, mon cher monsieur. »«
Ma foi, monsieur Holmes, puisque vos remarques ne nous concernent pas, si nous nous occupions de l'affaire qui nous réunit, mon temps est limité. »«
Vous avez raison. »
Orlebar tire de sa poche le paquet de lettres qu'il jette entre eux sur la table. Holmes examine le sol à la lueur de l'allumette avec laquelle il est en train d'allumer un cigare, sans que ce mouvement soit remarqué par Orlebar.
Eh bien, dans ce cas, voici le paquet qui fait l'objet de notre rendez-vous. Je ne l'ai pas encore ouvert, mais Miss Brent m'a dit qu'il contenait tout ce que vous désiriez.
Mais dans ce cas, il est inutile de l'ouvrir.
Pardon, je tiens à vous donner toute garantie.
L'affirmation de Miss Brent me satisfait complètement. C'est une jeune fille à qui l'on peut se fier.
« Venons-en donc au fait, et voyons quelle somme vous êtes prêt à me donner en échange de ces papiers. »«
1000 livres sterling. »«
Oh, nous sommes loin du compte. »«
Que demandez-vous donc ?»«
5000 livres. »«
Alors vous avez raison, monsieur Holmes. Nous sommes loin du compte. »«
Je regrette vivement de vous avoir occasionné ce dérangement. »«
Ne regrettez rien. »«
Vous savez que la famille a offert 4000 livres, rien que pour les lettres. »
« Et pourquoi n'avez-vous pas accepté ?»«
Parce que je suis sûr d'obtenir davantage. Vous pensez bien que ceux qui offrent 4000 livres en donneront 5. »«
Vous vous trompez. Ils ne vous donneront rien du tout. »«
Comment le savez-vous ?»«
Parce que ce que ces documents terrestres ont remis entre mes mains le soin de cette négociation. »«
Voyons, triplez votre offre et c'est fait. »«
Monsieur Holmes, mon temps est limité comme le vôtre. » J'ai apporté sur moi la somme de 1000 livres, qui est le maximum de ce que je peux vous offrir. Si vous êtes disposé à accepter ce chiffre, ayez la complaisance de le dire. Sinon, permettez-moi de vous souhaiter le bonsoir.
Eh bien, soit.
Jetant le paquet sur la table.
J'en passe par où vous voulez.
Holmes se rassit et sort de sa poche un large portefeuille d'où il tire une forte liasse de banknotes. Il en extrait tranquillement 10 billets de 100 livres qu'il compte. Et laisse le reste de la liasse sur la table en y appuyant simplement son coude, tandis qu'il compte de nouveau les premières. Orlebar le regarde avec des yeux brillants de convoitise.
« Je croyais que vous disiez avoir apporté juste 1000 livres. Je vois que vous avez un peu plus. »«
Oh, il faut toujours prendre ses précautions, vous savez. »
Il tend le paquet de banknotes qu'il vient de compter à Orlebar, qui les prend, tout en continuant à avoir les yeux fixés ardemment sur la liasse restée à côté de Holmes. Celui-ci dépose sur le rebord de la table le cigare qu'il est en train de fumer et prend le paquet de lettres qu'il met, de la main droite, dans sa poche, en même temps qu'il fait un geste de la main gauche pour atteindre les autres billets. Orlebar, d'un mouvement rapide, les saisit avant lui, et dès qu'il les tient, fait un bond en arrière. Holmes se relève vivement.
« Enfin, je vous tiens, et je vous ai amené au point où je voulais. Vous avez été pendant des années si avisé et si malin qu'il était impossible de vous mettre la main au collet. Cette belle faïence d'aujourd'hui vous coûtera cher. Demain, vous serez emprisonné comme voleur. »
« Emprisonné? Et c'est vous sans doute qui vous chargerez de ce soin. Mais êtes-vous sûr de pouvoir vous en aller si aisément d'ici vous-même, monsieur Holmes ?»«
Oh oui, j'en suis sûr. »«
Vous changerez peut-être d'idée tout à l'heure. »«
Oh, aisément ou malaisément, j'en sortirai. Et mon premier soin sera de vous faire arrêter. »«
Me faire arrêter? Et pour vol? En tout cas, il vous faudrait un témoin de ce vol, et vous n'en avez pas. »
À votre tour, en êtes-vous sûr? Mais dites-moi donc, est-il dans vos habitudes de fermer les portes de vos appartements avec un couteau comme celui-ci?
Il désigne du geste la porte du placard de droite. Un léger gémissement se fait entendre de ce côté. Holmes l'écoute avec attention, puis se dirige rapidement vers la porte, arrache le couteau de la planche et le jette sur le parquet. Orlebar suit son mouvement et veut l'empêcher d'ouvrir.
« Éloignez-vous de cette porte !»
Mais Holmes a eu le temps d'ouvrir, et Alice Brent pareil. Scène 8. Les mêmes, Alice Brent, puis Fletcher, Fitton et Jarvis.
« Expliquez-moi donc la présence ici de cette jeune fille. »«
Puisque vous voulez des explications, vous allez en avoir. »
Holmes déliant rapidement Alice.
« Vous n'êtes pas blessée, Miss Brent ?»
Entre Fletcher et Fitton. Il s'arrête un moment près de la porte, surveillant Holmes.
« Non, monsieur Holmes, rassurez-vous. Mais prenez garde !»
Elle lui désigne du geste les hommes qui viennent d'entrer. Holmes, se tournant seulement vers eux.
« Ah, oh, bonsoir, Fitton. Enchanté de vous rencontrer. Vous aussi, Fletcher. Oh, je crois que ce n'est pas à monsieur Holmes seul que j'ai affaire. »«
Vous êtes dans le vrai, monsieur Holmes. »
« Mais je devine aisément quel est le véritable chef et l'instigateur de cette petite conspiration. J'espère que vous vous présentez un peu plus à votre aise, Miss Brent, car il va nous falloir sortir d'ici. »«
Oh oui, oui, partons !»
Fletcher, qui est descendu devant la table.
« Désolé de vous retenir encore, monsieur Holmes, mais j'ai moi aussi une affaire dont je désirerais causer avec vous. »
Jarvis vient d'entrer à son tour et descend du côté droit près d'Holmes. Alice est appuyée contre la table.
Je serai toujours heureux de m'entretenir avec vous, Fletcher. Je ne manquerai pas de venir vous voir demain matin dans votre cellule à la prison où je vais vous envoyer.
Je regrette, mais il m'est impossible d'attendre jusque-là. L'affaire en question doit être réglée ce soir.
C'est bien, Fletcher. Réglons-la donc.
À ce moment, Alice voit Jarvis qui approche à pas de loup derrière Holmes, auquel elle désigne le bandit. Holmes se retourne, mais Jarvis l'a déjà saisi par les bras. Un très court corps à corps à la suite duquel Holmes repousse violemment son agresseur qui tombe, mais il a eu le temps de saisir le revolver de Holmes dans la poche de ce dernier. Orlebar est descendu d'un pas avec les autres hommes pour aider leur associé. Fletcher, à voix basse à Jarvis, pendant que celui-ci se relève.
« Tu as son revolver ?»«
Le voici. »
Holmes, reconnaissant son adversaire dans l'obscurité.
« Mais c'est ce bon Jarvis. Vous manquez en effet à cette petite fête. »
Il repousse la lampe, prend son cigare qu'il a laissé sur la table et se remet à fumer tranquillement.
« Je ne regrette qu'une chose, c'est que l'organisateur de cette agréable réunion n'ait pas jugé à propos de l'honorer de sa présence. Mais je suis tranquille. » À lui aussi, demain, au même endroit, je pourrai en faire mes compliments.
Malgré son absence, monsieur Holmes, il m'a justement chargé de le rappeler à votre souvenir en vous souhaitant toutes sortes d'agréments dans le voyage qu'il va avoir le plaisir de vous faciliter.
Holmes, tout en fumant.
En vérité, c'est tout à fait aimable de sa part.
Pour ne rien vous cacher, monsieur Holmes, notre mission consiste à vous attacher tout d'abord à cette poutre que vous voyez.
Pas possible! « Eh bien, Fletcher, je n'ai pas dans l'idée que vous y parveniez aussi facilement que vous semblez le supposer. »«
Nous sommes quatre et vous êtes seul. Réfléchissez que votre résistance ne servira qu'à vous faire casser quelque chose.
Oh, monsieur Holmes!
Éloignez-vous de cet homme, si vous ne voulez pas être blessé aussi.
Holmes, saisissant la main d'Alice.
Miss Brett, ne bougez pas.
Alice se rapproche d'Holmes. Orlebar à Alice.
Vous ne voulez pas venir?
Non!
Vous avez tort, miss. Dans la bagarre, on ne mesure pas ses coups. Cet homme peut être tué.
Eh bien, vous me tuerez aussi!
À ce moment, Holmes se retourne brusquement vers elle et la regarde un instant, les yeux dans les yeux. Holmes, d'une voix basse et profonde, le regard de nouveau fixé sur le groupe des quatre hommes.
Mais ne pensez pas ce que vous venez de dire, Miss Brand.
Si fait, je le pense.
Holmes, secouant la tête.
Non, non, c'est pas possible. À un autre moment, ailleurs qu'ici, vous ne risqueriez pas le répéter?
Je le répéterai partout, et toujours.
Fletcher, s'avançant.
Ainsi, vous supposez avoir raison de nous?
Avec une facilité enfantine, mon bon Fletcher. Vraiment, messieurs, vous m'étonnez en vous croyant si sûr de vous. Alors que vous n'avez même pas pris la peine de jeter un coup d'œil à cette fenêtre. Avant d'être certain que je ne m'en servirai pas pour vous échapper, il fallait d'abord remplacer les barreaux qui y manquent.
Qu'ils soient au complet ou non, je voudrais voir comment vous ferez pour sortir par là.
Oh, il y a tant de moyens que je n'ai que l'embarras du choix.
Fletcher, s'avançant.
Eh bien, je n'ai qu'un mot à vous dire. Faites-le vite.
Mon choix est fait, Fletcher, et le voici.
En disant ce mot, il saisit la lourde chaise de chêne sur laquelle il était assis et la laisse retomber de tout son haut sur la lampe qui se brise en mille miettes. L'obscurité se fait instantanément sur toute la scène. Toute lumière doit être supprimée à la rampe, sur le théâtre, au lustre, dans la salle. C'est la nuit complète, absolue. Seule l'extrémité incandescente du cigare de Holmes demeure visible derrière la table contre laquelle il s'appuie. On voit ce bout rouge virer, remuer, volter, en se dirigeant vers la fenêtre de gauche. Fletcher, d'une voix sourde.
« Attendez! Son cigare nous le livre.
Voyez sa lueur rouge.
Guidons-nous sur elle.
Attention, il va du côté de la fenêtre.
Jarvis se dirige vivement vers la fenêtre. On entend dans l'obscurité le bruit de plusieurs carreaux qui se brisent. Fletcher et Fitton poussent un cri de rage.
Ah ! Ne le laissez pas filer ! Sautez-lui dessus ! Dépêchez-vous donc !
Ils se dirigent tous du côté de la fenêtre où sont immobilisés Sherlock Holmes et son cigare.
« Où as-tu mis la lampe, Fitton ? Ta lampe de sûreté ?»«
Dans la caisse, contre le mur. »«
Attends, je vais la prendre. »
Fitton se dirige vers la caisse derrière laquelle est cachée la lampe de sûreté, la renverse d'un coup de pied et, la lampe en main, revient vivement retrouver ses compagnons groupés autour de la fenêtre. Lumière à la rampe. Holmes et Alice Brandt sont à la porte du fond qu'ils ont ouverte. Alice est déjà dans le corridor, et Sherlock Holmes à côté d'elle, la main droite sur la porte. Holmes désignant la fenêtre.
« Vous trouverez mon cigare dans une des fentes de cette fenêtre. Messieurs, je vous souhaite le bonsoir. »
En effet, le cigare, dont la pointe rouge continue à briller, est fiché dans une des crevasses de la fenêtre. Les quatre hommes se précipitent du côté de Sherlock Holmes en jurant. Celui-ci sort rapidement et ferme la porte derrière lui. Fletcher, Jarvis et Fitton se ruent sur la porte et font de vains efforts pour l'ouvrir. Orlebar, le poing tendu avec un cri de rage.
« Ah, il nous échappe !»